l'histoire n'est pas une nostalgie, mais c'est un tremplin nécessaire pour l'avenir.
1956, le rapport Khrouchtchev.
Ce rapport nous est parvenu du manque acheté sur tous les côtés, en main propre, comme on dit, et il est reparti dans les mêmes conditions, aussitôt lecture. Le publier, c'est une chose qui ne nous a pas été permise à nous. D'ailleurs, je dois dire qu'à notre avis, ça n'était pas indispensable.
Ainsi parlait embarrassé Maurice Thorez, secrétaire général du Parti communiste français. Alors que le 20e congrès du Parti soviétique était déclaré clos, le premier secrétaire Khrouchtchev lit devant les 1450 délégués convoqués pour une séance supplémentaire un rapport sur le culte de la personnalité. Un rapport destiné à rester secret au moins un moment. Le texte accable la politique menée par Staline depuis 1934. Devant les apparatchiks qui ont survécu au chef, Khrouchtchev veut conjurer la peur à laquelle ils ont tous été soumis et réhabilités, ceux qui, ayant eu le tort de les précéder, avaient été éliminés massivement. Le soulagement ne l'emporte pas nécessairement chez les présents. Khrouchtchev, en effet, dépose au cœur du système une bombe à retardement dont il est difficile de prédire ce qu'en feront les militants communistes, les habitants du pays et les sujets de l'Empire soviétique. Les partis frères, eux, sont comme sidérés. À la table familiale du secrétaire général du Parti communiste français, un défi serait lancé. Mais alors, nous sommes tous des assassins? La mère, Jeannette Thorez-Vermarsch, déclare en revanche, ne soyons pas de ces nains qui crachent sur la tombe des géants. Et Thorez, le secrétaire général, comme la plupart des dirigeants des autres partis frères, tente, lui, de nier le plus longtemps possible l'évidence.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Françoise Thom, bonjour.
Bonjour.
Historienne inflexible du communisme soviétique et qui s'est distinguée par un énorme livre, on vous a reçu à ce sujet il y a 2 ans, sur le camarade Beria, qui n'a pas survécu longtemps à Staline. C'était un livre publié aux éditions du CERF. Quand Staline meurt, 9 mars 1953, les dirigeants qui lui ont survécu considèrent qu'on ne va pas pouvoir laisser un tel pouvoir de répression à un seul homme, et il voit aussi que le mécontentement peut gagner le pays si le verrouillage est desserré. Alors votre hypothèse de travail dans cette biographie énorme sur Beria, c'était que Beria, l'assassin, le violeur, enfin une réputation terrifiante, c'était aussi le pragmatique qui avait imaginé la sortie.
Oui, Beria avait de toute évidence un programme de réformes radicales à mettre en œuvre après la mort de Staline. Il était le seul parmi les membres du présidium, comme on l'appelait à l'époque, le Politburo. Il était le seul à avoir un programme réfléchi, préparé.
De liquidation du stalinisme.
Voilà, de liquidation du stalinisme et peut-être même des bases du régime communiste, à mon avis.
Parce qu'il n'était pas communiste.
Il n'y croyait pas. Il ne croyait pas au communisme. Et donc, Beria a été celui qui a lancé la déstalinisation. C'est lui qui a fait publier la petite note du MVD, le 4 avril 1953, donc, qui réhabilitait les médecins juifs dans l'affaire du complot des blouses blanches, en laissant entendre que les aveux des médecins avaient été arrachés par des méthodes, comme il disait, contraires à la légalité socialiste, c'est-à-dire de la torture.
Et donc, lui qui avait pourvu les prisons en hommes, il pensait qu'il fallait liquider aussi le goulag très vite.
Oui, il a organisé une amnistie qui a été promulguée dès le 27 mars, donc quelques semaines après la mort de Staline, et qui a libéré presque la moitié du goulag. Et c'est là qu'il faut chercher, en fait, les les racines du 20e congrès de la déstalinisation, parce que c'est cette libération du goulag a lancé tout un processus. Elle a ébranlé, d'abord elle a ébranlé le reste du goulag, ceux qui restaient au goulag, et cela, l'URSS a été secouée par d'immenses révoltes du goulag en 53 et 54, et puis ceux qui étaient restés ont commencé à demander à être réhabilités, et notamment les communistes victimes de persécutions pendant la Grande Terreur. Et donc le parti a été littéralement assailli de demandes de réhabilitation.
Alors, d'une certaine manière,
il fallait faire quelque chose.
Vous réhabilitez Beria en disant qu'il avait une politique pragmatique assez inventive.
Non, je ne réhabilite pas Beria. Je ne réhabilite pas Beria, je ne nie absolument pas l'ampleur des crimes qu'il a commis, notamment pendant la Grande Terreur où il était en Géorgie. Mais je montre simplement que Beria avait un autre visage. Enfin, il en tout cas, il a essayé à la mort de Staline, il a essayé très vite de corriger un certain nombre de monstruosités de ce système. Et c'est ça qui a causé sa chute. Et
simplement, sa chute va être précipitée par les grandes grèves ouvrières de RDA, réprimées terriblement, et il va être arrêté en juin 1953. Procès va avoir lieu, il sera exécuté. Et celui qui va maintenant passer sous les feux de la rampe, il faut quand même qu'on le présente, il n'est pas bien connu à l'époque, on ne l'appelle pas encore Monsieur K, bien que son nom soit extrêmement difficile à orthographier, eh bien c'est le nouveau premier secrétaire, Nikita Khrouchtchev, que voici portraituré rapidement par un ancien ministre socialiste, Christian Pinault, avant qu'on ne le voie à l'œuvre, parce que lui aussi avait participé aux répressions staliniennes quand il était commissaire politique en chef dans l'armée rouge.
Khrouchtchev, lorsqu'on parlait avec lui, il vous disait sa pensée, toute sa pensée, parfois même avec des termes qui lui étaient personnels, et c'était la vérité qui sortait de sa bouche.
Il était exubérant, parfois un peu grossier, et c'était une façon assez appuyée de rappeler, je crois, ses origines prolétariennes et même paysannes.
Il affectait même d'exagérer son attitude.
Je m'appelle Nikita Sergeyevitch Khrouchtchev. Je suis venu prendre les choses en main ici. Cette ville n'est pas Koursk, n'est pas Kiev, ni Minsk. Cette ville, c'est Stalingrad. Stalingrad! Cette ville porte le nom du patron. C'est pas une ville, c'est un symbole. Si les Allemands s'emparent de Stalingrad, c'est la Russie tout entière qui s'effondre. Alors, je veux que nos gars ici relèvent la tête. Je veux qu'ils montrent qu'ils ont des couilles! Il est temps que nos gars arrêtent de chier dans leur froc! C'est de vous que ça dépend. De vous, les officiers politiques. Et c'est sur vous que je compte.
Alors dans le film Stalingrad de Jean-Jacques Hano, le langage de Khrouchtchev tel qu'on peut tenter de le restituer. À ceux qui au présidium, François Stom, disent aux camarades Khrouchtchev, quand même, on a travaillé avec Staline, c'est le sauveur du socialisme, il répond oui, on a été sous la férule de Staline, ça ne nous engage pas. Et il y a un grand débat là au sein du présidium entre différentes tendances.
Oui, donc finalement, à la fin de l'année 1955, Khrouchtchev en arrive à la conclusion qu'il faut faire la vérité sur Staline tel qu'il l'entend. Enfin, qu'il faut ouvrir la question Staline devant les communistes de l'URSS. Et donc s'engage une discussion au sein du présidium, une discussion qui a lieu fin 1955 et début 1956. Et on voit à cela que le rapport secret de Khrouchtchev va être, enfin, il est préparé, mais très rapidement, malgré tout. C'est l'affaire de quelques semaines. Donc, fin 1955, Khrouchtchev confie à un historien en décembre 55 à un historien du parti tout à fait stalinien, pur et dur, qui s'appelle...
Un biographe de Staline,
Pospielov. Il lui confie la tâche de rédiger un rapport sur les crimes de Staline, mais il ne s'agit alors que des arrestations de communistes au moment de la Grande Terreur, de communistes victimes en 1937-1938 de la Grande Terreur, fusillés pendant ces années-là. Et donc Pospielov va rendre son rapport, c'est je crois vers le 9 février. Il y a une séance du Politburo, du Présidium, où est discuté où on discute alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ?
C'est-à-dire, quel crime dénoncer et quel crime oublier ?
Qu'est-ce qu'on va faire devant tout ça ? Alors, se dessinent, je dirais, trois tendances. Il y a la tendance des orthodoxes staliniens, on peut dire Kaganovitch, Molotov...
Les vieux chevaux de retour dont
l'argument est, si on ouvre ce couvercle, on n'arrivera plus à le refermer. Ça, on ne contrôlera pas. C'est ça l'argument, par exemple, de Kaganovitch.
Et la deuxième tendance?
C'est au contraire la tendance qu'il faut foncer. Il faut y aller. C'est Mikoyan qui pousse à la roue, par exemple, pour révéler, déballer tout ce qu'on peut, en fait. Mikoyan, Sabourov, un apparatchik, un protégé de Malenkov. Et Malenkov aussi est plutôt favorable à y aller.
Vous allez dire que Khrouchtchev est au centre.
Alors, Khrouchtchev est au centre avec Bulganine. Ils retiennent une formule médiane, c'est-à-dire qu'on va diviser la vie de Staline en deux, avec un bon Staline jusqu'en 1934 et un mauvais Staline à partir de 1934.
La césure, c'est 1934, ainsi que le dit Monsieur Khrouchtchev, le camarade Khrouchtchev, dans son rapport qui évidemment n'a pas été enregistré ou dont on ne possède pas l'enregistrement, peut-être à Columbia University, ce qui explique qu'il faut en faire une lecture a posteriori. C'est François Chaumette qui interprète le premier secrétaire. Et puis vous allez entendre adjoint des commentaires d'Alexis Adjoubaï, c'est le gendre et propagandiste du camarade Khrouchtchev.
Les intentions de Staline à l'égard du parti et de son comité central devinrent pleinement évidentes après le 17e congrès du parti qui eut lieu en 1934. Il a été établi que des 139 membres et suppléants du comité central qui avaient été élus au 17e congrès, 98 avaient été arrêtés et fusillés, c'est-à-dire 70%.
Indignation dans la salle.
La salle était électrisée. On hurlait. Honte. Assassin. Livrez-les à la justice. L'excitation a atteint son comble et les anciens chefs, le proche entourage de Staline qui se trouvait au présidium, ont tout de suite compris que c'était une catastrophe pour eux, que Khrouchtchev faisait ce qu'il voulait faire, dire la vérité sur Staline.
Il faut se souvenir que le 17e congrès est connu historiquement sous le nom de Congrès des vainqueurs. Les délégués au congrès avaient été des artisans actifs de l'édification de notre État socialiste. Nombre d'entre eux avaient combattu et souffert pour la cause du parti pendant les années pré-révolutionnaires, dans la conspiration et sur les fronts de la guerre civile. Comment peut-on alors supposer que ces gens pouvaient être à double face et avaient rejoint le camp des ennemis du socialisme ?
Sensation dans la salle.
Khrouchtchev montait sur ses ergots et plus la réaction de la salle était vive, plus il prenait de l'assurance. La salle hurlait. Je me souviens très bien que des médecins y sont entrés en amenant les personnes saisies d'un malaise. C'était ceux dont les parents, les frères et sœurs avaient été exterminés et que Khrouchtchev réhabilitait.
Indignation, sensation dans la salle, disent des didascalies qui datent de la publication officielle en 1989 seulement avec le label du parti. Il était temps, hein, parce que l'URSS allait disparaître. Il peut dire ce qu'il veut, à Dubaï, faire les commentaires qu'il veut. On ne sait pas vraiment quelle était l'atmosphère dans la salle et peut-être était-elle davantage faite de sidération et de silence.
Oui, d'autres témoignages indiquent plutôt que c'était que Khrouchtchev a parlé dans un silence de plomb. Mais en revanche, il y a quelque chose qui est dit par Adjoubaï qui est juste, c'est que si on compare le texte de la commission Pospielov et le discours de Khrouchtchev, on voit que Khrouchtchev a ajouté beaucoup de choses, par rapport au texte prévu, rédigé par cette commission Pospieloff, qui, elle, s'était concentrée sur les condamnations, les procès truqués des communistes durant la Grande Terreur. Alors, Khrouchtchev a rajouté des chapitres concernant les erreurs de Staline pendant la guerre, par exemple. Il fait tout un procès de la manière de gouverner de Staline, le fait qu'il n'écoutait personne, qu'il s'était isolé du pays, qu'il avait que sa réputation pendant la guerre était usurpée, et il évoque le sort des peuples condamnés, des déportations des peuples du Caucase. Bref, il va beaucoup plus loin que ce qui était prévu initialement.
Mais cependant, avec cette césure de 1934 qu'il présente comme décisive, on va entendre un extrait d'un opéra de Chostakovitch qui a connu beaucoup de difficultés dès 1932, dès ses premières représentations, c'est Lady Macbeth de Mtsensk. Staline reprochait à cet opéra érotique, selon lui, d'être pornophonique. Alors, comme nous sommes très respectueux, nous vous proposons la version expurgée telle que Chostakovitch lui-même l'a mise au point sous le nom de Katerina Ismailova. C'est tout à fait normal, quand l'Opéra de Lyon a représenté il y a peu de jours Lady Macbeth de Mtsensk, c'était encore déconseillé aux moins de 14 ans. Измайловой сейчас мир горой венчается подлая, а меня не пригласили, я ей припомню, как без начальства венчаться, я ей припомню, как без начальства венчаться. Как наша взял, ты помним, была бы только причина, хотя причина всегда найдется. Как наша всегда найдется. Я не гелиста поймал. Он Бога, ваше благородие, не верует.
Ох, так есть.
Молчат. И про лягушек, каких лягушек.
Стал я думать, только ли один человек обладает душой. Нет ли ее у лягушек? Взял лягушку, исследовал.
Ну!
И есть душа, токма малая и не бессмертная.
Жить!
Простите, есть Бог, есть Бог.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Chostakovitch, expurgé, c'est une version de Gennady Provoratov à la tête de l'Orchestre Symphonique de Moscou. Nous parlons avec François Tom, 60 ans après du rapport Khrouchtchev. Bon, retardement qui est placé par le premier secrétaire du Parti communiste d'Union soviétique à l'issue du 20e congrès. À l'issue du 20e congrès du parti, le congrès est clos. On convoque les gens à huis clos. Le lendemain, le camarade Bulganine demande « Vous ne prenez pas de notes, les délégués des pays frères ne sont pas invités ». D'ailleurs, comment va-t-on le connaître, ce texte? Dans quelle langue? Dans un délai de combien de temps, François Stone?
Il y a une version un petit modifiée du rapport secret, un peu poli, on peut dire, du rapport secret lu par Khrouchtchev, va être finalement diffusée parmi les communistes et les communistes, parmi les communistes étrangers aussi.
Et c'est passé par les Polonais?
Alors, cette version va finalement elle va être connue par Israël. C'est par Israël,
ça, par Israël
que les Américains, oui, par les communistes polonais.
Juifs polonais.
Juifs polonais, voilà. La fuite.
Vous riez, mais il n'y a pas de quoi rire, parce que le camarade Bierut, l'homme de fer, le premier secrétaire du Parti communiste polonais, il paraît qu'il a été tellement saisi par l'émotion qu'il est mort de pneumonie dans la semaine.
Il est très passé très vite.
Et le camarade Fedeyev, qui était le grand exécuteur des basses œuvres à l'Union des écrivains, il se suicide.
Oui.
Ce qui est logique d'ailleurs, parce que ces gens se disent, mais à quoi avons-nous consacré notre vie? De quoi allons-nous maintenant être accusés?
Oui, ça a été un choc terrible hein, en URSS, les révélations de Khrouchtchev.
Alors, russe, polonais, par Israël, et ça va devenir un texte anglais.
Voilà, ce sera publié, je crois, en juin.
Par le New York Times.
Et puis ensuite repris par les...
Par le Monde.
Par le Monde.
J'aimerais
oui.
que vous disiez
oui.
par la presse bourgeoise.
Voilà.
Alors voici un correspondant de la presse bourgeoise, en l'espèce c'est Jean Neufsel, qui est le correspondant pour la Radio Nationale à Moscou, et il dicte un papier quelques semaines après le congrès.
Le comité central a pris la décision, aussitôt le congrès terminé, de convoquer dans toutes les grandes entreprises, usines, établissements d'enseignement, etc., des réunions à huis clos réservées aux membres du parti. Des réunions au cours desquelles lecture a été donnée d'un résumé détaillé du discours prononcé par M. Khrushchev. Les réactions furent différentes, satisfaction chez la majorité, et en particulier chez beaucoup de jeunes gens, des étudiants, des intellectuels qui vivaient depuis quelque temps dans une atmosphère de fronde et qui se réclamaient souvent du léninisme. Surprise, scandale chez de nombreux militants qui ont fait leur carrière pendant les longues années aujourd'hui soumises à la critique. Satisfaction encore dans des familles extrêmement nombreuses, des communistes de foi sûre, mais qui ont eu à souffrir d'un régime personnel dont les sévérités ont été éloquemment décrites par M. Khrushchev lui-même. Allô Paris, ici Moscou, radiodiffusion, télévision française. Allô ?
Allô Jean Neufsel ?
Oui, je vous entends à peine.
Bon, et je vous demande si votre papier a été coupé par la censure.
Oui, mon papier a été à trois reprises coupé par la censure. Et pour marquer les passages qui manquent un peu de lien logique, j'ai fait une petite pause en le disant.
Ah bon, d'accord, merci.
Vous avez pu l'enregistrer ?
Très bien.
Entendu.
Au revoir.
Comme quoi, à la radio, il faut aussi écouter les silences. Il dit, Neufsel, ce qu'il est impropre d'appeler l'opinion publique. Cependant, il explique que des réunions d'information commencent à être convoquées à destination des 7 millions de membres du Parti communiste, à destination des 18 millions de membres des jeunesses communistes, les Komsomol. Et au fond, peut-être, François Stomme, une opinion publique va-t-elle peu à peu se cristalliser autour des questions centrales qui sont posées ?
Absolument. On peut dire que c'est le début, c'est la cristallisation d'une opinion publique indépendante en Union soviétique. Un processus qui va être, je dirais, encore facilité par la construction d'appartements par Khrouchtchev, ce qui fait que beaucoup de soviétiques auront des appartements personnels et donc une opinion publique peut mieux se former si les gens n'ont pas peur d'être espionnés par leurs voisins.
Oui, mais on peut quand même raconter ces réunions alors, en grand réunions... apparat. On a des notes, on a des témoignages.
Oui, des réunions donc ont lieu partout. Donc le rapport secret est discuté dans la hiérarchie du parti. Donc des réunions ont lieu pour informer les communistes de base du contenu du rapport secret.
Que disent les archives qu'on peut à un moment consulter là-dessus ?
On sait maintenant beaucoup mieux ce qui se passait. Donc on voit déjà, dès le moment de la discussion de ce rapport secret, que les autorités du parti ne vont pas pouvoir, ce qu'espérait Khrouchtchev, contrôler les révélations. Parce que les gens posent des questions, notamment les intellectuels, les étudiants. D'ailleurs, il en a été question dans notre émission, l'émission radio qu'on a entendue, les nouvelles. Les étudiants sont très...
Mais les questions, on les pose directement, comme ça, on levant le doigt, camarade, ou est-ce qu'on a le filtre de...
Les questions sont posées souvent
qui sont ensuite lues par le
bout de papier. D'ailleurs, on raconte une de ces séances, Khrouchtchev lui-même s'adressait donc à un auditoire. Il était question des crimes de Staline et il reçoit un bout de papier où il lit la question. Et vous, camarade Khrouchtchev, qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là ? Et Khrouchtchev regarde la salle et dit qui a posé cette question.
Ouais.
Et personne ne bouge dans la salle, personne ne se montre. Et Khrouchtchev dit, voilà, vous avez la réponse à votre question.
J'évoquais ce qui se passait dans les partis frères, les discussions à la table familiale des Thorez, où le fils aurait dit, alors nous sommes tous des assassins. Il faudrait qu'on entende ici deux anciens leaders qui témoignent après coup. L'un, c'est Jacques Duclos, qui était à Moscou en février 1956, et l'autre, c'est Roger Garaudy, qui a longtemps été dans les parages de la direction du parti.
Je crois que dans son fameux discours contre Staline, je crois qu'il en a rajouté un peu. Je ne parle pas de ce qui lui a reproché au titre de crime commis dans la période Staline. Ça, c'est une autre affaire. Mais quand il disait, par exemple, que c'était sur le map monde que Staline dirigeait les opérations militaires, ben non, ça, je ne l'ai jamais cru. Et Staline était un homme intelligent. Par conséquent, Khrushchev, je lui ai dit d'ailleurs un jour, il en avait rajouté. Et des petites bricoles de ce genre-là, ça n'ajoutait rien à rien. Au fond, il y avait peut-être une tendance chez lui à diminuer Staline, mais qu'est-ce que ça veut dire diminuer? On ne se grandit pas en diminuant un homme.
Il est évident qu'il fallait faire ce qu'a fait Khrushchev, mais il l'a fait de la façon la plus horrible qui soit, comme une sorte de règlement de compte. Je sais bien que c'était sans doute un homme affolé et qui jouait même sa tête dans cette histoire. Et il a amassé à la fois des arguments soi-disant théoriques, mais aussi des ragots. Il fallait à tout prix démontrer qu'il y avait une succession de crimes.
Alors on sent que ça traînait des pieds, Carrefour de Châteaudun, c'était à l'époque le siège du Parti communiste. Ça traînait des pieds aussi, et ça on le sait moins, rue des Boutiques Obscures, le siège du Parti communiste italien, à Rome. Parce qu'on a tendance à dire que c'est à ce moment-là, sur les révélations du rapport Khrushchev, que la voie ouverte du Parti communiste italien s'est définie, très différente de celle du Parti communiste français.
Oui, dans l'immédiat, les réactions étaient très négatives et Khrushchev a carrément été accusé par les communistes italiens et européens de casser la boutique. Et ça a d'ailleurs servi d'argument aux adversaires de Khrushchev qui ont repris les arguments des communistes européens pour dire, voilà, il va trop loin.
Longtemps, les communistes italiens, pendant plusieurs mois, ont été eux aussi sur cette ligne-là. Alors, il y a deux possibilités pour conclure, France Custom. Évoquer la vague révolutionnaire qui commence dès juin 1956 en Pologne et qui va être jugulée. La nomination de Gomulka permettra de contenir les choses. Et la révolution, la contre-révolution, disent les communistes orthodoxes de Budapest en octobre aussi. Ou bien, moi j'aimerais autant que vous finissiez comme ça, vous êtes habitué à être questionné sur Poutine. Poutine, il parle comme Duclos de Staline, il ne faut pas trop diminuer ses mérites.
Alors, Khrushchev a été très critiqué, y compris par Gorbatchev. Au printemps 85, Gorbatchev, dans une réunion du Politburo, dit encore que Khrushchev est allé beaucoup trop loin dans la révélation des crimes de Staline. Et bien sûr, Khrushchev est très critiqué aussi maintenant par les patriotes
grands russes,
oui, qui lui reprochent d'avoir placé une bombe sous l'édifice de l'État russe, pas seulement
de l'État. Oui, mais Poutine va plus loin.
Alors,
Khrushchev, il était arrivé au 20e congrès en brandissant des textes de Lénine contre Staline.
Voilà.
Et donc la Poutine défend Staline contre Lénine.
Khrushchev se rattachait à Lénine, à la légitimité léniniste, pour essayer de limiter les dégâts des révélations des crimes staliniens. Alors, aujourd'hui, on est un peu dans une situation paradoxale en Russie, puisque Lénine est à peu près universellement rejeté. Et tout récemment, Poutine s'est prononcé sur ce débat, on peut dire. Il a reproché à Lénine lui-même d'avoir placé une bombe à retardement sous l'État russe. Et il a dit que dans le débat entre Staline et Lénine de 1922, sur la future structure de la Fédération de Russie et la Fédération soviétique, c'était Staline qui avait raison, parce que Lénine défendait le droit théorique, bien sûr, à l'autodétermination des peuples, et Staline était réticent. Donc Poutine, finalement, aboutit à l'inverse des conclusions de Khrushchev. Hein. Il revient sur le 20e congrès.
Merci à vous, François Stomme. Votre Beria, c'est aux éditions du Cerf. Bientôt à Que sais-je, à quatre mains, autour de la géopolitique de la Russie. Cette émission a été préparée par l'équipe de La Marche de l'Histoire, avec à la réalisation Jacques Sigal, la préparation Franck Olivard, Frédéric Martin et Linka Negulesco.